Notre prochaine plage horaire est consacrée au témoignage. Donc du coup, je passais la parole à Julien Rodriguez, qui est enseignant en dessin à l'ESSAT de Valenciennes. Julien ?
Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, je suis très heureux de participer à cette soirée avec tous ces collègues que je chéris tant et avec qui j'ai partagé cette année. Donc là, aujourd'hui, à partir de maintenant, on va donc faire une transmission de témoignages. Et moi, je vais introduire un workshop que j'ai proposé aux journées pédagogiques à la rentrée dernière, dans le cadre en fait de pédagogique de format vidéo ou sonore. On a eu l'idée de proposer deux workshops en deux sessions avec les étudiants en art et en design. Dans ce sens, j'ai proposé à l'autrice Jeanne Meyer d'intervenir à l'école pour un workshop. Donc ça s'est passé en deux phases, la première en février, la seconde en mars, où les étudiants ont été amenés à se rencontrer et à découvrir la prise de son. Cette deuxième phase a eu lieu lors de prise de son en micro-trottoir à Valenciennes, et ils sont allés à la rencontre des habitants et des habitantes. Tout cela a été aussi complété par des improvisations poétiques sous forme de haïku sonore. Donc l'ensemble a été en fait monté et mixé par Jeanne sous la forme de 5 épisodes de 5 minutes que vous allez entendre à la suite. Donc Jeanne Meyer, pour la présenter, anime des ateliers de création sonore au sein du collectif Bocal Vocal. Elle est autrice et productrice pour Radio France, Les Pieds sur Terre et Affaires Sensibles. Elle réalise des films documentaires dont Dreams, un documentaire sur trois jeunes femmes qui contrôlent leurs rêves, disponible sur le site France TV. Donc je laisse la parole aux étudiantes et aux étudiants de Valenciennes dans le cadre de ces épisodes qui ont été enregistrés.
Ok, ça filme. Ah bah ça rec, puisque ça filme en fait. Là on est en dessous d'un tunnel et on marche vers l'ESSAD, on est dehors. Route bétonnée, chemin boisé. Et du coup ouais, il y a des sapes, des petits vêtements. Sac poubelle, tout ça, bah des déchets quoi. Il y en a un peu partout. C'est une ambiance un peu bizarre, c'est un peu vide, délabré, en même temps on sort de l'école donc c'est un peu excentré, pas de mentir. Ouais, c'est un peu comme ça là, le petit début de l'aventure. Et le panneau de l'école supérieure d'art et design de Valenciennes, www.valenciennes.fr. Voilà, c'était marqué dessus. C'est tout. Hop.
Premier épisode. On ouvre la porte.
Bonjour, moi c'est Anouk. Je suis en troisième année à l'ESAT de Valenciennes. Et je me rappelle toujours la rentrée, mais comme si c'était hier, grand soleil, première fois que je fais la route, verdure partout. Le premier jour, je ne sais pas si les autres s'en rappellent, mais je suis sortie de l'amphithéâtre et tout le monde s'entassait après qu'on ait eu le discours traditionnel. Et j'ai commencé à parler avec les gens comme ça parce qu'en fait, j'étais tellement heureuse de me dire « je vais croiser des gens qui me ressemblent, qui sont comme moi ». Et du coup, Roméo, il a vu une jeune fille qui faisait du bruit et qui avait plein de couleurs sur elle. Il s'est dit « ah, je vais aller lui parler ». Et il a vu mes dessins et il a bien aimé. Et en fait, mine de rien, quelqu'un qui est sensible à tes dessins, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est capable de comprendre quelque chose que les autres ne peuvent pas forcément saisir. Et du coup, c'était plein d'enthousiasme que j'ai apporté cette rentrée et cette rencontre avec des gens que je ne connaissais pas.
Moi, je suis de Lille, je m'appelle Laurette. Sur le fait de s'alimenter artistiquement un peu tous, je sais que ce qui m'a marqué dans les premiers mois à l'école, c'est vraiment le fait de pouvoir discuter de sujets pendant des heures avec des personnes, des sujets qui vous passionnent et avec qui vous n'avez jamais vraiment pu parler jusque-là. Et c'est ça qui me... Je me suis dit, waouh, c'est trop bien parce que... Puis il y avait des années supérieures et c'était... C'était vraiment un apport même de pouvoir discuter avec des professeurs dont c'est le métier et la passion et ça apporte tellement, c'est incroyable. Dans les premiers mois, ça m'a vraiment marqué.
Vous pourrez, si vous pouvez regarder ce mur, on a juste au-dessus la trace d'une couronne réalisée magnifiquement par Célia. On peut, c'est même marqué Célia au-dessus.
Du coup, là, on est en propédeutique, une des plus grandes salles de l'ESSAD, si ce n'est la plus grande. C'est ici que, pour la plupart, on a passé nos entretiens d'admission. Donc, c'est une salle qui, à la première vue, est un peu imposante. Mais en première année, on était du coup, une quarantaine d'étudiants en première année. Donc, la salle était vite remplie, même trop petite. Donc c'est les moments où les amitiés se sont formées et où les petits clans aussi. Du coup, c'est un peu notre salle de cœur, je dirais. On voit les bateaux passer aussi. Les grands, grands bateaux qui portent du métal, en général, parce que là, il y a un stockage. On voit la voie ferrée, et du coup, ça fait beaucoup de bruit, ça fait un peu trembler les murs. Mais je sais pas, au bout d'un moment, moi, par exemple, je n'entends plus. Et ça fait partie du paysage, quoi.
Donc là, on est en train d'approcher le tram. Ce tram-là, il a été utilisé fréquemment par les élèves pour justement accéder à l'école, finalement. Des gens habillés de gilets orange, peut-être des contrôleurs, c'est possible. Donc là, on va y accéder pour enfin rentrer dans le cœur de la ville de Valenciennes. Voilà.
Moi, je suis arrivée et du coup, je connaissais que Arsène. Et la première semaine, je ne suis pas du tout sortie de chez moi à part pour aller à l'école. J'habite toujours dans le centre de Valenciennes. Je sais pas, il y avait un peu ce truc effrayant. Donc j'ai passé mes soirées à regarder des films dans mon nouveau canapé. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, bah, faut quand même que tu aies une vie sociale. Donc je me suis rapprochée de personne et je me suis fait un bon groupe d'amis.
Et puis c'est comme ça qu'on a créé un petit, ce qu'on a appelé la Pampa tout à l'heure. C'est notre petit clan. De sortie, de travail, d'entraide, de soutien aussi beaucoup émotionnel, parce que bah, mine de rien, on était tous en train d'arriver à vivre tout seul. Surtout Laurette et moi, on vivait pas très bien le fait d'être tout seul après être parti d'une grosse famille. Et je sais que ça, c'est la création d'une nouvelle famille, ça nous a beaucoup aidés.
Je sens que la première soirée que j'ai fait chez moi, j'étais hyper stressée. J'ai tout rangé, au centimètre près dans mon appartement et j'ai attendu vraiment assise dans mon canapé pendant 25 minutes que les gens arrivent. Et c'était super cool de pouvoir accueillir des gens. Le groupe d'amis, il a un peu, enfin c'est un peu fluctué au fur et à mesure des années, mais toujours des gens qui sont là.
Amis, vin et vie.
C'est agréable. Amis, vin et vie.
Éclipse sur Saint-Géry.
Sonnette.
Sonnette.
Porte 4.
Porte 4.
C'était un soir, on était à l'école. On était tout seuls, Roméo et moi, à être dans notre année à nous, c'est-à-dire la propédeutique, la première année. Je me souviens, on était en train de descendre et d'un coup, j'ai Chloé qui débarque. En fait, une personnalité très importante qui était en quatrième ou cinquième année, troisième année, bref, elle me paraissait si importante et si loin de moi. Et en fait, elle vient et me dit « Anouk, Roméo !» L'école, elle va fermer. Ils nous coupent tout le budget. Et en fait, c'était un peu la panique. C'était un mouvement, comme un mouvement de foule, alors qu'on était peu. Et on se dit, mais il faut que tout le monde le sache, parce que bah, c'est un truc de ma boule. Ça impacte tous nos avenirs à tous et chacun. Et c'était ultra intense, ouais, comme instant.
Épisode 2, résister.
Moi, du coup, je me suis très vite engagée dans la lutte. En fait, l'école m'avait fait tellement rêver que je me suis dit, c'est pas possible. Et il y a eu les écoles d'archi qui ont commencé, parce qu'elles étaient en danger. Et du coup, nous, on a rejoint le truc parce qu'on était grandement en danger. Et en fait, il y a eu énormément de communication entre écoles. On faisait des réunions en appel vidéo. Il y avait, je sais pas, il y avait 65 personnes qui étaient dans la vidéo de plein de mondes différents. On se tenait au courant de comment ça se passait, etc. Et on a été très bien entourés. Il y a eu le syndicat du Massico, du coup, qui est venu à l'école, qui nous a expliqué un peu comment ça se passait pour se révolter, comment on faisait, quels étaient les outils, qui on pouvait attaquer, quels étaient nos droits. Et c'était vraiment un moment de ferveur. On était tous dans la merde, quoi. Donc, il fallait vraiment se tenir les coudes. Le mouvement des écoles d'art en Angoulême, c'était vraiment genre un gros symbole pour nous de révolte, parce qu'ils avaient vraiment pas peur de leur mairie et pas peur des élus, et on s'est beaucoup inspiré d'eux dans ce combat.
Du coup, moi, c'est Lou, et donc, je suis étudiante en troisième design à l'ESAT de Valenciennes. Un moment qui m'a un peu marqué, je dirais que en fait, chez moi, j'avais un mégaphone. Pourquoi, je ne sais pas. Mes parents avaient acheté ça, et là je le voyais en plein action avec du coup Laurine, une ancienne étudiante qui criait
non aux écoles d'art qui ferment avec mon mégaphone. C'était incroyable. Je sais pas, il y avait Hardcore Pomme le Nord. Ah oui, on veut rien rallonger sauf la vie de l'ESAD. C'était ça, on manifestait en même temps pour la retraite. Donc là, on avait fait avec la vie de l'ESAD.
Du coup, l'occupation, elle a commencé en fin février, début mars 2023, dans la salle du frigo de l'école. Et celui-là, on l'a réinvesti du coup pendant un mois pour pouvoir dormir la nuit et faire nos cours la journée. On rentrait juste chez nous le week-end et des fois pour se prendre une douche quand même pendant la semaine. En fait, tout le monde n'avait pas de matelas. Je dirais même que personne n'avait vraiment un matelas. Moi, je dormais sur deux planches de bois avec plusieurs couvertures. C'était pas le grand luxe, mais en soi, on s'amusait bien. Il y avait aussi des gens qui avaient ramené des hamacs. Voilà, moi, j'en garde des très bons souvenirs. Parce que c'était une vraie cohésion, c'était très très dur physiquement et mentalement, une grosse grosse fatigue. Mais ça nous a permis vraiment de nous rapprocher et on avait un seul objectif, c'était notre école et ça nous a vraiment soudés. Dans les dernières semaines, on était vraiment épuisés, on commençait à se taper dessus limite parce qu'on était fatigués, on n'en pouvait plus. On rentrait chez nous, on prenait une douche, on partait, on avait les cheveux mouillés, enfin c'était... La dernière semaine, on s'est dit bon bah là on sait que c'est la dernière, c'était avant les vacances d'avril. En fait, ça devenait toxique et mauvais pour notre santé. Et on se sentait si peu entendu qu'on s'est dit, bon bah, en plus, ça a servi à rien. Et on était vraiment découragés. Mais je suis très contente de l'avoir vécu. Et je me dis que je pars avec un sacré bagage. Et en fait, c'était un moment très fatigant. Mais j'ai beaucoup appris sur moi et sur mes capacités à faire. Et sur ma capacité à vouloir aller au bout des choses et à protéger les choses qui me sont chères. Ça n'a pas marché, mais je me sens capable de le refaire si un jour j'en ai besoin. Et dans les manifestations, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui étaient en détresse. Et ça m'a vraiment formée, je pense aussi, à ouvrir les yeux sur les cas des autres et me dire bah, je suis chanceuse quand même, parce que je me bats pour une école, mais il y a des gens qui se battent pour le salaire et la nourriture qu'ils ont dans leur assiette, quoi. Donc, voilà.
C'est pas les retraités, c'est pas les fonctionnaires, c'est les capitalistes qui nous poussent.
Donc là, je suis en train de marcher vers la place d'armes. C'est un point de rencontre, c'est un endroit où il y a des gens. Les gens, et c'est ce qui manquait à l'école finalement, là, cette dernière année, même avant, hein, sachant qu'on était 20 dans l'école quand même. Et même, je veux dire, on est à l'école de Valenciennes, on est à 45 minutes à pied du centre-ville. On est annexé, on est mis à l'écart de Valenciennes, du coup, on n'entend même pas parler de nous en soi. Est-ce qu'on fait vraiment partie de la ville ?
Épisode 3, Valenciennes.
Ok, bon, du coup on va la refaire. Moi c'est Roméo, je me présente, enchanté. Et vous qui êtes-vous ?
Monsieur, ouais. Ahmed. On a fait une petite marche, on prend l'air un petit peu.
Et est-ce que vous connaissez du coup l'école d'art et design de Valenciennes, peut-être ?
Non, pas du tout, non.
Ok. Et donc cette école, elle va fermer. Et vu qu'on sait même pas qu'on existe finalement, c'est ça aussi. Je veux dire, les seules fois où on est parti dans Valenciennes dessiner, c'était justement quand on a fait du design d'observation en cours, en deuxième année. Et des gens, ils sont venus, ils étaient curieux, ils demandaient pourquoi on faisait ça, etc. On était où ? Et c'est là qu'il y avait eu un lien avec la ville, un vrai lien avec la ville et avec les habitants qui y vivent, en fait, finalement.
C'est vaste, l'art, non ? C'est vaste. Ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, ça peut être plusieurs choses.
Ce qui nous a fait, je pense, perdre la tête en premier au niveau des écoles territoriales, même si on est les premiers de la longue liste, c'est que nous, la mairie n'est pas du tout avec nous. On était plutôt vus comme une épine en fait dans le pied plutôt qu'un bénéfice pour la mairie. Et ça a commencé avec le déménagement au début des années 2000. On était en fait, l'école était en plein centre de Valenciennes et on a déménagé en périphérie. Et Nicolas, qui est notre professeur de couleur, il avait dit qu'en fait, nous éloigner du centre de Valenciennes, c'était nous éloigner des intérêts principaux de la ville. Et je pense que ça a énormément joué en fait.
C'est parti. Bah bonjour. Je m'appelle Anouk Malfoy, je suis en école d'art à Valenciennes et je vais vous poser quelques questions, mais avant, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle Antoine Touanchaud, je suis étudiant en audiovisuel sur le campus du Mont-Ouy.
Et est-ce que vous êtes au courant du coup de la fermeture de l'école d'art de Valenciennes ?
Pas du tout, vu qu'on ne savait pas qu'il y avait une école d'art de Valenciennes, on ne savait pas du tout qu'elle allait fermer, c'est dommage.
Peut-être juste pour vous prévenir que du coup l'école qui ferme, on y est étudiante, on est la dernière promotion. Voilà.
Et elle existait depuis quand, l'école ?
1839.
240 ans, en fait.
On est, là, actuellement, on est plus que 19 dans l'école. Mais on tournait sur 200 élèves à l'année. Donc voilà.
Il y a toujours cette impression de mur invisible qu'il y a entre habitants valenciennois et étudiants dans cette école. Finalement, quand on est en art, est-ce qu'on est marginal ? Peut-être. Mais, comment dire ? Il y a un écosystème totalement différent. T'as l'écosystème de l'école et t'as l'écosystème de Valenciennes. Et c'est jamais rentré en contact. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait un gap entre les élus municipaux et nous.
Du coup, bonjour, moi je m'appelle Anouk Malfoy, je suis en école à Valenciennes et je vais vous demander de vous présenter pour commencer, s'il vous plaît.
Alors bonjour, moi je m'appelle Nadia Mika, je tiens le magasin Frip Chic, qui est une friperie à Valenciennes.
Donc, est-ce que vous êtes au courant que le maire va fermer l'école d'art de Valenciennes ?
Pas au courant du tout, tout ferme de toute façon, parce que justement le maire ne fait rien pour... Rien pour la ville, je trouve. Mis à part la place d'armes, comme vous dites, tout ferme, malheureusement. C'est bien dommage.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour moi, c'était important de rentrer dans une école publique, parce que le public, c'est l'accessibilité pour tous, à tous. Dans un domaine privé, c'est quand même une partie de population qui est complètement différente de celle que j'ai rencontrée ici. Et le modèle que je préfère, c'est ce modèle-ci, ce modèle où on se bat pour ce qu'on a. Et c'est dommage que l'État ne s'en rende pas compte, ou alors s'en rende compte, et c'est encore pire. Surtout dans un pays qui ne fait que se vanter de son patrimoine culturel et artistique. C'est quand même hyper contradictoire de s'en vanter, ce que fait le maire d'ailleurs, se vanter de l'art à Valenciennes, de se vanter qu'un tel artiste a étudié dans cette école, Watteau a été fondateur ici. Pour autant, c'est le premier à ne pas nous soutenir et à nous décrire, je le cite, comme le caillou de la chaussure de la ville, quoi.
Bonjour, nous sommes du Nord, Valenciennes. Nous sommes retraités et nous faisons nos courses à Valenciennes aujourd'hui.
Est-ce que vous connaissez l'arbre qui se situe sur un rond-point à Valenciennes, l'arbre du Canada ? C'est un arbre en métal, ça vous dit quelque
chose ? Oui. Faut pas faire les arbres végétaux quand même.
Du coup, c'est un arbre qui vient d'Usinor. C'est une usine qui a fermé et actuellement, l'école d'art se situe dans les locaux d'Usinor, les anciens locaux. Et cet arbre a été utilisé pour manifester contre la fermeture d'Usinor. C'est un arbre qui a été créé par les ouvriers pour montrer leur savoir-faire. Et l'école d'art a repris la même démarche en copiant cet arbre, en le faisant en bois, pour lutter contre la fermeture de l'école.
Oui, c'est une bonne symbolique. Après, la fermeture d'Usinor, ça remonte à quelques années quand même.
Oui, c'est vrai. Et maintenant, ça va être la fermeture de l'école.
Selon moi, en fait... J'aurais peut-être pas les mots exacts pour le formuler, et je suis peut-être pas assez intelligente avec un assez bon vocabulaire, mais ni même une assez grande connaissance. Mais en fait, l'art, c'est important. C'est à l'origine de l'expression du mal-être d'un peuple. Ça fait ouvrir les yeux sur des sujets. En fait, c'est simple. Dès que ça va pas au niveau du gouvernement, dès qu'on part sur une dictature, dès qu'on part sur ce genre de choses horribles, en fait, ce qu'on supprime, c'est l'art, parce que c'est l'art qui va aller à l'encontre de ça. Et en fait, si jamais l'État ne soutient pas l'art, c'est-à-dire qu'il est en train de couper une forme d'expression, il est en train de couper une des choses les plus importantes qui fait tourner une démocratie, et là où ça devient privé, on va commencer à soutenir des systèmes qui sont plus de l'ordre d'entreprises ou de cercles très fermés ou d'une élite. Donc en fait, c'est hyper grave. Et moi, je sais que mon regard, il se tourne plus sur l'école, il se tourne sur l'avenir et quel sera le combat derrière, en fait.
Comment je vais faire si je les perds? Comment ferait-il si je partais? Un jour je vais voir partir ma mère, ça je peux pas l'imaginer. On dit que ce sont des êtres chers, autant m'arracher la chair. Je voudrais me noyer dans les airs, je veux qu'on m'en ciel pas commentaire. J'ai vu des proches perdre des proches, je pleurais de les voir pleurer. Leurs yeux s'éteignent comme des lampes torches, je vois la vie en accéléré. Ces corps qu'on pourra plus serrer, ces papiers de merde qu'il faut gérer. Franchement j'ai plus envie de rester, à quoi ça sert de faire semblant? J'ai plus envie de continuer, ou bien je vais le faire en titubant. Donc préviens-moi si tu meurs, j'aurais aimé qu'on soit du miel. Je regarde les oiseaux migrateurs faire des flash mobs dans le ciel, et j'y traduirai la grâce. Je m'accrocherai à ce que je pourrais, je m'en fous que tu sois dans l'espace. Je te préfère à mes côtés, je perds le fil, je perds le temps, car avec lui tout s'en va. Passé, futur ou présent, je voulais tout le temps être avec toi, moi. Je voulais tout le temps être avec toi, moi.
Ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, ils nous manquent et ils nous manqueront. Mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, ils nous manquent et ils nous manqueront. Ma douce, pleure pas, t'es mort. Tu leur ferais du tort s'ils étaient vivants. Te verrais comme ça s'ils étaient vibrants. Te prendrais dans leurs bras. Tu les rendrais tristes de voir dans cet état. Pardon si j'insiste. Ils feraient tout pour toi. T'es là tout abîmé, tu marches à côté de la vie. Il t'aurait réanimé et l'amour aurait suivi. Fais comme s'ils étaient là, ma douce, ne les rends pas tristes, ma douce, mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, il nous manque et ils nous manqueront. Oh. Rends-les heureux et fais-les sourire à distance. Deviens heureuse, envoie des sourires à distance, car là où ils sont. Y'a plus de notion du temps, mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, ils nous manquent et ils nous manqueront, mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, ils nous manquent. Mais quelle bénédiction.
J'aimerais juste revenir sur une chose, c'est que je pense qu'en sortant de cette école, je ne vais plus supporter le mot chance. On est dans une école qui ferme, ça va nous apprendre des leçons. Ça aura donc ses avantages, ses inconvénients. Mais lorsque l'on souffre de la situation, je ne supporte pas cette réponse qu'on nous a répétée plusieurs fois,
Vous avez tellement de chance. Vous avez tous les professeurs pour vous, toute l'école pour vous, tous les moyens de l'école pour vous. Oui, mais c'est pas une chance, en fait. C'est pas des circonstances normales d'études. Mais voilà, enfin, je sais pas comment le ressentent les autres élèves. Moi, c'est quelque chose qui m'aura marqué, en tout cas, sur cette scolarité étrange. Le mot chance, alors qu'on est une école qui ferme.
Épisode 4, 19 élèves, 5000 mètres carrés.
On a mis quand même beaucoup de temps, je trouve, à faire comprendre qu'on avait compris qu'on avait de la chance de pouvoir voyager, de pouvoir s'étaler, de pouvoir avoir quasiment un suivi constant, personnalisé de chaque professeur dans chaque matière. Et nous, ce qu'on essayait de faire comprendre, c'est que malgré ça, se sentir seul, c'est quand même quelque chose d'important. Ça joue sur les étudiants, sur la manière d'étudier, sur le ressenti global. Il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient qu'on avait peur, qu'on était stressé, qu'on était tiraillé et qu'on ne savait pas encore comment se projeter dans l'avenir parce que là, pour l'instant, on sait même pas, on ne savait pas comment allait se dérouler notre année diplômante, si on allait avoir un diplôme, si notre diplôme allait compter pour quelque chose. Bon, je sais que j'ai fait un bilan tout pourri l'année dernière parce que j'étais dans une phase complètement ailleurs, quoi.
Du coup, moi, je m'appelle Camomille Le Guader, j'ai 23 ans et actuellement, je suis en troisième année design, donc à l'ESAD. Moi, je pense que la fermeture de l'école, ça a un peu joué sur notre confiance en soi parce qu'en fait, on est un peu dans un âge et dans une situation où on se cherche, où on va décider de ce qu'on va faire plus tard de notre vie et c'est assez primordial. Et en fait, je pense que ça nous a déjà remis en doute cette fermeture parce que ça veut dire quoi ? Que cette école ferme, ça veut dire que on ne sert à rien ou qu'on n'a pas besoin de nous. Donc oui, je pense que y a aussi la fermeture de l'école dans ce sens-là qui joue sur notre humain à nous.
Le vent transperce tout, infiltre les failles, la tempête achève.
À partir du moment où on a su que l'école était en année blanche et que donc forcément il allait y avoir moins de monde, c'est un moment que j'ai redouté comme pas possible, parce que je suis quelqu'un qui suis très sociable et très ouverte sur les années supérieures aussi, parce que je cherche beaucoup à avoir leur expérience. Et au final, comme on s'est vite rapproché, c'est quelque chose de très très familial, et maintenant je redoute de quitter un peu ce cocon de confort qu'est d'être amie avec tout le monde, toute l'école au final, qui sont 19 personnes. Et quand je suis toute seule, je mets de la musique ou j'essaye de combler le vide qu'on peut entendre dans l'école énormément. La cafétéria, tout ça, c'est très marquant. Mais dans une classe, je trouve que pas tellement au final.
En tant que personne qui est en art, dans une école où on est 19 et donc que 6 en art, déjà quand il y a un absent dans la classe, ça fait vide. Et je sais que ma façon à moi de survivre dans cette école où on n'est plus qu'à 19, c'est d'essayer de sortir un petit peu de ma salle où je suis tout le temps quasiment qu'avec Louise. Et c'est vrai qu'à force, avoir la même bulle, c'est long et c'est déprimant. Et j'ai beaucoup appris de la personne avec qui je partage mon appartement en ce moment, qui est du coup Nils, mon copain. Qui lui est en design et en fait il a eu la merveilleuse et très bonne idée de sortir lui aussi de son groupe d'amis et d'aller vers les autres et de plus découvrir les autres. Et en fait je me suis dit mais il est génial ton groupe d'amis, ils sont géniaux tous ces gens. Et c'est pour ça que des fois quand j'ai un petit coup de mou, que j'arrive pas à travailler ou que c'est carrément vide parce que je suis toute seule dans ma salle, soit les autres sont en atelier ou pas là, en fait, je monte avec eux, je m'assois à côté d'eux et je dessine à côté d'eux. Et je partage avec eux leur moment de vie. Alors peut-être que je ne suis pas dedans, mais je les partage avec eux. Et c'est vrai que j'aurais peut-être jamais fait ça si on n'était pas dans ces circonstances-là.
Et je crois qu'il restait encore une question.
Oui. Donc toi, quel est ton rapport au bruit? Et selon toi, quel bruit pourrait plus incarner l'école?
Moi, le bruit qui m'évoque l'école, c'est le bruit des escaliers, parce que c'est l'îlot central. Et on arrive aussi à déterminer qui monte les escaliers par l'intonation des pas, la lourdeur des pas ou la rapidité. Et oui, c'est un truc qu'on entend tous les jours à l'école.
On a aussi les portes dans les couloirs, pas celles qui servent de portes pour les salles de cours, mais celles qui séparent pour passer d'un couloir à l'autre. Ces grandes portes, deux portes battantes, et quand on les entend taper, on sait qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va arriver.
Je pense que comme ils l'ont dit, en plus on se connaît tous très bien, du coup on reconnaît tous limite la vitesse à laquelle on ouvre les portes.
Bah, par exemple, on sait que c'est Hugo qui rentre dans la salle parce que Hugo, il a les pas qui s'aèrent. En fait, il est sur ressort et on le ressent plus que d'autres personnes, par exemple.
On reconnaît Philippe aussi parce qu'il avait un trousseau de clés. Maintenant, il l'a plus, mais avant, on l'entendait partout dans l'école.
Moi, je reconnais Laurette parce qu'il y a souvent ses talons qui claquent et ses bijoux qui s'entrechoquent. Et en général, je sais que Laurette arrive quand j'entends ses pas là.
Moi, je reconnais Titouan parce qu'il a les pieds qui traînent sur le sol.
Et moi, je reconnais Roméo parce qu'il a des pas très très lourds. Et dans tous les endroits de l'école, on l'entend. Et Louise, on l'entend pas. C'est ça qui fait peur, du coup, c'est quand on entend juste une porte et plus de bruit du tout.
Le bruit de mes pas, dans le silence de l'école, un trésor à conquérir.
Bah, cette année, on a un projet en option qui s'appelle Monument, et on essaie un peu de trouver des moyens de se souvenir de l'école. Et par exemple, moi j'ai un projet où je vais graver les murs de l'ESSAD, donc du coup les laisser à la mairie, qui devra forcément soit les reboucher, soit les garder. Et c'est parti d'une idée de les élèves qui, depuis la nuit des temps, gravent les murs, gravent les tables, et qui laissent leurs traces comme ça dans un lieu. Donc voilà.
Épisode 5, on ferme la porte.
Ouais, du coup, moi, je vais poser une question à Lou. Qu'est-ce que tu as trouvé pendant tes études à l'ESSAD ?
Moi, quand je suis arrivée ici, déjà, je connaissais personne comme tout le monde. Et je veux dire que j'ai rencontré des belles personnes et que j'ai trouvé c'est des bons copains. Ensuite, de base, je ne voulais pas du tout faire du design. Enfin, moi, j'étais plus partie pour être styliste. Et au final, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'ai même trouvé ma passion dans le bois, en ébénisterie. Et ça, c'est vraiment super. Je suis vraiment contente, du coup.
Moi, je pense que j'aimerais bien garder contact avec des amis que je me suis fait ici. Parce qu'on sait tous qu'on va partir à gauche, à droite et qu'on risque sûrement de ne pas se reparler avant un moment. J'espère quand même qu'on gardera un lien. Voilà, c'est tout.
Qui veut ?
Allez, tiens. Je possède une grande affection pour les gaufres au chocolat de la machine.
Et moi, des
fantastiques. Et je pense que je continuerai d'acheter la marque. Elle est vraiment bonne. Voilà. Je pense que je continuerai de penser à l'école en mangeant des gaufres au chocolat. Et j'ai pas envie de dire un truc triste. Du coup, je vais rester là-dessus.
Du coup, je repose une question à Camomille. Comment toi, tu vas la fermer, cette école ? Par quel geste, quel symbole, quelle pensée et à quel moment ?
Ça va paraître bête à dire, hein, mais je vais tout simplement partir parce que y a pas le choix puisque l'école elle ferme. Mais je vais partir avec un bagage riche en pédagogie, riche pour les retours qui m'ont été donnés des professeurs. Et je pense que je suis fière aujourd'hui de dire que je fais partie de la dernière promo de l'ESAD. Et ça, il faut pas l'oublier, surtout qu'on s'est battu pour vivre ces derniers instants.
On est en train, avec l'atelier de recherche et création, donc avec Lou, Anouk et Laurette, de créer et de mettre en place un géant, entre guillemets, traditionnel, comme les gens du Nord, du coup, ce qui va nous permettre de faire subsister l'école par le biais de ce qui représente le mieux la fête dans le Nord. Il va défiler au Paris-Roubaix, donc la course de vélo en juin, je crois, ou juillet. Et après, à plus long terme, on a eu des propositions pour potentiellement le garder, le sortir, le faire bouger et le faire continuer de vivre. Parce que comme on a appris, un géant a une vie complète, un baptême, des relations, des enfants. Donc si ça se trouve, notre géant, dans 20 ans, aura une vie complètement différente. Et peut-être une autre école, peut-être, on ne sait pas, on verra de quoi ça sera fait demain. Sa vie, ce sera un peu comme l'extension et la suite de la vie de l'école. On va tous mettre notre petite âme dedans pour qu'il continue d'errer dans le territoire valenciennois, ailleurs s'il faut. Voilà.
Alors, il y a tout le temps des fêtes pour les diplômes et tout ça de fin d'année. Il y a toujours eu une fête de fin d'année. Et du coup, je pense que là, comme c'est la dernière fête de l'école, ça va vraiment être gros. Et on va pouvoir dormir à l'école directement. Tout le monde pourra dormir à l'école, comme une petite reprise de la lutte.
Et en tant qu'élève, moi, je pense que ce qu'on a envie, c'est juste de décompresser de l'année. On va sortir de nos diplômes, on a juste envie de s'amuser, de retrouver nos anciens amis qui étaient là les années passées. On a beaucoup de pleurs, je pense qu'on va tous beaucoup pleurer de partir de cet endroit. Et d'être les derniers en plus. Et je trouve que déjà le slogan porte fermée est assez fort, parce que bah, du coup, voilà, on ferme nos portes juste après cette soirée, on dit au revoir au portail. Et puis, mais non, je pense que les attentes, il n'y en a pas, et il y en a. On veut se retrouver, on veut s'amuser, on veut boire, on veut manger, et reparler un peu de tout, tous ensemble. Faire comme le premier jour de l'ESAT, quoi. On est rentré avec les étoiles dans les yeux. On va ressortir avec les yeux mouillés de larmes, quoi. Et de larmes de joie aussi.
Moi, j'ai un peu l'impression qu'on va, je vais pas dire enterrer une vieille amie, mais l'école, c'est un lieu qui a uni tellement de monde en tellement d'années. Enfin, ouais, c'est un peu l'enterrement de quelqu'un qu'on a tous connu, mais ce sera pas un enterrement à tristesse. Je pense que ça va être très joyeux et pouvoir imaginer la suite et le fait qu'on est tous passés par là et qu'on va tous vers des chemins différents qui vont être tous aussi bien les uns que les autres, ça va vraiment être bien, je pense.
Sous le ciel brûlant, rire, danse entre amis, cœur lié au vent. C'était le dernier épisode des Voix derrière la porte. Une série réalisée par Jeanne Maillère avec les derniers élèves de l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes. Anouk, Camomille, Célia, Laurette, Lou, Roméo et Titouan. Thank you.
sangre huele si me pinchan rosa. Tú la dejas hacer dañar, es tu fantasía rosal.
Donc là, ça enregistre, je crois que le micro est là. Donc Alexandre, je ne suis pas sûr, on ne va peut-être pas garder mon introduction, mais on peut le faire. Donc Alexandre Périgaud, professeur d'enseignement artistique à l'École d'art et de design de Valenciennes, va nous parler de l'arbre oublié. Alors qu'est-ce que c'est que cet arbre oublié ?
Oui, bonjour. L'arbre oublié. Eh bien, l'arbre oublié, c'est une œuvre des anciens ouvriers de Usinor, les grandes entreprises sidérurgiques de Valenciennes, dont le siège social est aujourd'hui celui de l'école. Et donc, il y a un jeu de l'histoire qui fait que en 1988, Usinor fermait définitivement son activité industrielle, ainsi que le lieu où nous sommes aujourd'hui et qui va aussi fermer définitivement en 2025. Alors l'arbre oublié, c'était une réalisation faite par les ouvriers pour montrer leur savoir-faire dans le cadre d'une action, une action syndicale et une action de refus de la fermeture. Et ces actions qui ont été à la fois, je veux dire, ouvertes sur une forme de diplomatie, se sont vite révélées violentes, puisque des affrontements ont eu lieu entre les ouvriers et les CRS envoyés par le gouvernement socialiste de l'époque, dirigé par M. Fabius. Et ça a eu des conséquences assez terribles. Et les ouvriers, qui étaient soutenus par les élus locaux, ont décidé d'offrir à la ville de Valenciennes une sculpture réalisée avec leur production, qui était un arbre fait avec des rails et des poutrelles métalliques qui étaient façonnées. Et cet arbre a été amené et déposé devant la mairie, offert aux habitants. Et ensuite, la mairie, quelques années plus tard, l'a disposé sur le rond-point du Canada, qui est l'ouverture, l'entrée de Valenciennes. Donc nous, avec les étudiants, nous avons pensé que c'était très important de réactiver la mémoire de ce geste ouvrier et aussi de considérer dans quelle mesure cette sculpture était à la fois un objet de revendication sociale, mais aussi une œuvre d'art. Et donc, nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, et nous avons entrepris de reconstituer toute l'histoire de cet arbre. Donc, c'était sous la forme d'un film, sous la forme de documents archivés, d'une enquête. Pendant une année, les étudiants ont pu retrouver des responsables syndicaux, des responsables du patronat, des responsables politiques et aussi grand nombre d'ouvriers dont ils ont récolté le témoignage sur la lutte à Usinor. Et qui s'était centralisé sur aujourd'hui ce qui est devenu l'école, ce grand bâtiment dans lequel les ouvriers ont même été jusqu'à occuper et à séquestrer la direction devant le silence des autorités et des autorités politiques et gouvernementales de l'époque. Donc on a fait tout ce travail et on a aussi donc reconstitué l'arbre à l'échelle 1. On a fait un double, mais cette fois-ci, il a été fait en bois dans les ateliers de l'école. Une manière de montrer le savoir-faire de cette école, comme les ouvriers l'avaient fait en 1988, pour montrer dans quelle mesure nous engagions, en réactivant la mémoire de ces luttes, sur le même site, d'engager les nouvelles luttes qui nous attendaient afin d'essayer de sauvegarder, non pas nos emplois, mais de sauvegarder une école de service public qui a une histoire de plus de 2 siècles et demi et qui faisait partie de véritablement, et je le répète, d'un service public pour le Valenciennois et sa région, et en tant qu'école d'art même internationale, puisque elle accueillait des étudiants avant tout, d'un point de vue démocratique, des étudiants qui n'auraient pas eu les moyens de financer une école privée.
Ça me semble bien.
Bonjour, donc je m'appelle Steven Maas et donc j'ai été embauché dans les années début 90 par Antonio Guzman qui était directeur à l'époque comme prof d'anglais qui j'ai dû faire un an à peu près et après il m'a invité à rester dans l'école et prendre le poste de sculpteur et de dessin. J'ai fait ça pendant surtout beaucoup de dessins et pas mal de sculptures, mais beaucoup de dessins, je m'en souviens, sur le vif, sur le modèle vivant, etc., etc., pendant au moins 20 ans, je pense. Et donc, c'était une école qui avait une certaine renommée, franchement, et par le directeur, donc ce monsieur Guzman, qui avait entre autres fait une très très bonne galerie de l'école qui s'appelait l'Aquarium et dans laquelle il a exposé beaucoup, pendant une vingtaine d'années, je pense. Il a organisé des expositions plutôt personnelles d'artistes très variés, extrêmement intéressants et qui apportaient beaucoup aux étudiants et au fonctionnement de l'école. Voilà. Après, l'école a dû déménager dans une espèce de banlieue de Valenciennes. Et les choses ont un peu changé. D'autres directeurs sont arrivés. Et moi, je me suis beaucoup plus concentré sur l'enseignement de la sculpture. J'avais presque plus que ça à faire. Il n'y avait plus de dessin à faire. Donc ça, c'était bien. Et j'ai pu avoir du budget pour inviter des artistes comme d'autres professeurs ont pu le faire aussi. Donc il y avait des rencontres absolument merveilleuses avec des artistes invités, des intervenants, etc., etc. Et puis moi j'ai pu inviter donc surtout Richard Deacon qui était et qui est encore un sculpteur, le sculpteur, probablement le sculpteur le plus important anglais avec son collègue Tony Craig. Et j'ai pu l'inviter pour une journée de rencontre avec des étudiants et conférences. Et un autre anglais, Simon Starling, qui est aussi beaucoup plus jeune que Deacon, et qui est également très important sur la scène internationale. Et on avait exposé une pièce qui avait été acquise par le FRAC Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle Carbon Peterson. Il y avait des accessoires et des objets comme une tente, un vélo Peterson, une tronçonneuse, des choses comme ça. Et il fallait, par une partie de la pièce, c'était de couper un grand arbre à proximité de l'école. Donc on a fait appel à la ville et aux techniciens pour nous couper et transporter un énorme arbre qui avait été découpé en segments. Et donc tout ça, c'était importé dans la galerie. Et l'idée, c'était que... Bon, donc le titre, c'était Carbon Peterson. Peterson, c'était un vélo. C'était le nom du premier inventeur. Je pense qu'il était norvégien. C'est lui qui a inventé le vélo à moteur, mobilette. Et la pièce, donc, bon, comme son nom l'indique, parle du carbone, de la présence du carbone partout. Et donc, comment le carbone devient... une présence de cycle, on peut dire perpétuel, puisque cette tronçonneuse en question, il l'avait mis, Starling l'avait mis sur le vélo, qui donc le vélo devient une mobilette. Il avait enlevé une pédale qui devient une manivelle pour tourner une broche pour éventuellement cuire de la viande, mais qu'il n'y en avait pas dans l'expo. La selle du vélo, il a été enlevé pour faire un siège devant le soi-disant feu de camp. Et donc un cycle comme ça, de l'arbre qui devient... une source de... Enfin, le carbone devient une source d'énergie dans l'essence de la tronçonneuse qui allume, qui entraîne le moteur du vélo et la lumière, et etc., etc. Un cycle comme ça. Très, très belle pièce. Vraiment magnifique. Et tout ça avec un filtre bleu sur les vitres de la galerie qui faisait nuit dans la galerie. Donc, ça faisait nuit dans la galerie. Voilà, donc 30 ans de vie dans cette école qui m'a marqué, mais vraiment, et par toutes les choses qui sont passées, les rencontres, et je voudrais juste dire combien c'est désolant, mais vraiment, j'ai pas d'autre mot, de voir dans un mois cette école qui ferme pour toujours. La plus vieille école de France, donc ils avaient comme étudiants quand même Carpo et Watteau, entre autres. Voilà. Je n'ai pas d'autre mot à qualifier cette fermeture que désolant.
Je m'appelle Petro Pelic. J'ai 69 ans. J'ai travaillé aux Beaux-Arts pendant plus de 28 ans, de 1992 à 2020. Dans ma carrière, j'ai connu 4 directeurs. Je suis un architecte contrarié, car très attiré par la démarche artistique. C'est la raison pour laquelle, en janvier 1992, j'ai fait une candidature spontanée à la DAP pour enseigner dans une école d'art. Grâce à cette démarche, j'ai été pris à l'École des Beaux-Arts de Valenciennes, qui cherchait à remplacer un prof designer démissionnaire ou viré. Le poste libéré et la casquette de l'architecte faisant, on m'a mis dans la section design, avec pour mission de reconquérir le diplôme national des arts et techniques perdu auparavant. Le directeur des Beaux-Arts de l'époque avait ambitionné de hisser l'école au niveau international. Il avait recruté une équipe cosmopolite et avait ouvert son carnet d'adresses pour exposer des artistes de qualité dans la galerie de l'école. Cependant, concernant nos statuts, nous travaillions pendant 10 ans comme contractuels, ne sachant pas fin août si on sera renouvelé début septembre. Merci encore Michel Sapin pour votre loi sur la résorption de l'emploi précaire qui nous a permis de devenir titulaire, titre voué à disparaître, si ce n'est pas déjà le cas. En 2003, juste avant de partir, ou avoir été sommé de partir, je ne sais pas, le directeur avait initié le départ de l'École des Beaux-Arts de son bâtiment centre-ville construit en 1860, exprès pour elle, sous prétexte de désordre structurel. Inutile de dire que le bâtiment est toujours aujourd'hui debout, sans problème, et occupé le summum de l'absurdité par le conservatoire de musique, affectation totalement inadaptée pour les espaces de 6 mètres sous plafond. En 2005, l'école a inauguré ses nouveaux locaux dans un bâtiment des années 1950, prêté par l'agglo et fraîchement réhabilité, situé dans un cul-de-sac en dehors de la ville. Symboliquement, c'était déjà la mise à mort programmée, malgré toutes les salades qu'on nous a servies à l'époque. De nouveaux locaux, donc, et aussi une nouvelle directrice, nommée en 2004. Arrimée à un enseignant ambitieux, la nouvelle directrice, dont le règne avait duré une dizaine d'années, a infléchi la dominante art pour se consacrer davantage au design, sous l'égide de la CFAO, conception et fabrication assistée par l'ordinateur, suivant le dada de l'enseignant aux manettes, qui avait devant lui une autoroute. Autre signe des temps et de l'état d'esprit, l'appellation École supérieure des beaux-arts a été abandonnée au profit de l'École supérieure d'art et design, l'ESAD, comme un tas d'autres écoles en France soumises au nivellement centralisateur. En 2014 est arrivée une autre directrice, cette fois-ci une personne éthiquement et humainement irréprochable. Elle a dirigé l'école jusqu'à ses 67 ans, faisant tout pour son épanouissement et sa survie. Et après elle, en 2019, encore une autre, orientée de nouveau sur le design. Je ne suis pas mécontente de ne pas avoir eu à travailler sous ses ordres que quelques mois. La crise du Covid avait commencé en mars 2020 et j'ai passé le deuxième semestre en distanciel. Après, plus rien. Coupure nette. À deux ou trois exceptions près, je me suis aperçu que je ne manquais ni aux enseignants, ni aux étudiants, et qu'ils ne me manquaient pas non plus. Constat accablant. 28 années qui se terminent en apparence dans un crash aplatissant d'un quart de seconde, et dans le subconscient, dans de très nombreux rêves insistants. Depuis que j'ai intégré cette école, j'ai toujours entendu parler de sa situation précaire, de l'imminence de sa fermeture. Toutes ces années, on nous rappelait qu'on vivait sous l'épée de Damoclès, ne sachant pas de quoi est fait le lendemain. L'école n'arrêtait pas de se positionner, se repositionner, tout faire pour augmenter sa visibilité, rendre plus attirante encore sa vitrine, mais en réalité, elle luttait pour sa survie. Parallèlement, elle se dépatouillait dans le sac de nœuds à désaccréditation délivré par l'État, via d'innombrables experts qui, sans se déplacer, notaient l'école comme des agences de notation dans le monde économique de l'échelle mondiale. N'ayant pas trouvé d'associés, l'école n'a jamais fait partie d'un APCC plus grand, moyen de résister encore un peu plus longtemps dans l'atmosphère du démantèlement généralisé des écoles d'art en France. Au moment où je partais, des pourparlers se déroulaient avec l'université du Hainaut-Cambrésis pour tenter de créer des passerelles sans se faire tout simplement avaler par elles. Les temps que nous vivons actuellement ne m'inspirent évidemment aucun espoir. Cette société en perdition, gouvernée par des personnes sans la moindre idée de ce que l'enseignement artistique, voire la culture tout court, peut apporter, est condamnée à plus ou moins long terme à vivre, sans que ça la perturbe outre mesure, la disparition des valeurs qui ont animé et animent encore des gens comme moi. Sous prétexte de ne plus pouvoir la soutenir financièrement, étant donné le lâchage de l'État, la municipalité de Valenciennes a pris la décision de laisser mourir à petit feu cet établissement plus que bicentenaire, jadis joyau de la ville dont toute la population était fière. Je ne voudrais pas être à la place du maire qui en a la responsabilité. Mais c'est passé, ça passe, la population actuelle, dans son écrasante majorité, s'en fout. Je parie qu'à l'heure qu'il est, elle oublie déjà qu'une telle école avait existé. L'oubli tisse imperturbablement sa toile qui finira par l'engloutir puis diluer son existence dans un néant. Dans quelques années, quelques décennies, on n'en saura plus rien.
Étroit.
Oui, je suis Stéphane Wernicki, je suis designer plasticien et j'enseigne à l'ESAD de Valenciennes depuis 2005, c'est-à-dire depuis 20 ans. L'idée de participer, quand en tout cas Christophe et Elisabeth m'ont demandé de participer à cette émission de radio, et notamment voilà, me souvenir un petit peu de ce qui avait pu se passer au cours de ces 20 années, ça m'a obligé à me replonger dans les photos que j'ai prises. Au cours de toutes ces années d'enseignement. J'ai regardé ces images et la première l'image qui a retenu mon attention, c'était un peu au moment où, dans le cadre d'un arc, donc un arc est un atelier de création, de recherche et de création, on a conçu une imprimante 3D céramique à partir de fichiers open source. C'est-à-dire que dans cet arc, on a commencé à s'intéresser à savoir ce que c'était que les logiciels open source, les données open source, et voir un peu leurs possibilités et leurs caractéristiques pour voir un petit peu ce que cela changeait dans la production. Et c'est un programme qui s'est étalé sur 2 ans. Et ça a été un programme très très riche parce qu'on a pu plonger un petit peu dans une des actualités du monde contemporain qui concerne aussi bien des artistes que des designers. À savoir, effectivement, aujourd'hui, on a accès à une quantité de données qui permettent aussi de développer ses propres outils de production. Et ça, c'est une donnée qui a pas mal changé au cours de ces 20 années. Je ne vais pas m'étaler, je vais parler aussi d'un autre boulot qui a retenu mon attention, qui est un étudiant qui travaillait sur les limites. En fait, c'est un étudiant qui a toujours hésité entre est-ce que je vais en art ou est-ce que je vais en design, et il ne savait pas très bien parce qu'il interrogeait toujours l'usage des objets ou de sa propre production. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait toujours un peu 2 interprétations comme ça. Il était à cheval. Et c'est quelqu'un qui a développé tout un travail donc sur les limites et les notions de frontières, les notions de, tiens, est-ce que j'arrive là à la limite d'une pratique artistique et je bascule dans le design ou l'inverse. Et c'est quelqu'un qui a fait tout son diplôme sur comment redessiner des barrières, des limites, c'est-à-dire celles qui nous empêchent ou qui fait que on n'est plus très bien là où on pensait être. Voilà un autre type de travail que je trouvais aussi vraiment passionnant et qu'on a pu développer dans le cadre de son DNSEP. Je vais prendre une troisième image qui était le travail d'un duo de designers qui ont développé toute une approche à partir de la récupération des déchets plastiques et qui ont fait une réplique d'un bateau qui s'appelle le Vaurien et qui est un bateau école. Et c'était un projet d'une très grosse ampleur parce que dessiner un bateau, reconstruire un bateau, c'est assez ambitieux. Je dois dire moi-même que j'étais assez sceptique sur la réalisation de ce projet, et finalement ils ont réussi parce qu'ils ont réussi aussi à contacter des entreprises, parce que là il fallait automatiquement avoir des quantités de déchets plastiques qui étaient très importantes même pour faire un modèle unique. Bref, ils ont réussi à trouver une collaboration et ils ont développé leur projet sur 2 ans. Et ils ont vraiment fait un projet magnifique, puisqu'il en plus il a été exposé à la Triennale de Milan, me semble c'est en 2021. Voilà, c'est quelque chose qui leur a permis de continuer d'ailleurs à développer cette pratique depuis qu'ils ont leur diplôme. La récupération de déchets, on récupère, on fait, on fabrique, enfin voilà. Je vais m'arrêter là. J'aurais pu citer aussi d'autres travaux. Là, je regarde encore une quatrième et dernière image d'une étudiante qui a travaillé sur la production en s'appuyant sur les imprimantes 3D et dont tout le travail était de dérégler les images, les imprimantes 3D. C'est-à-dire que d'un côté, elle travaillait sur des formes qu'elle dessinait de façon précise en informatique, et dès que ces images et ces modèles étaient basculés sur l'outil de fabrication que sont les imprimantes 3D, elle obtenait tout autre chose parce qu'elle avait totalement déréglé les machines dans un objectif de surprendre et de voir finalement comment on pouvait jouer avec des choses qui sont soi-disant précises si on s'amuse à changer un certain nombre de paramètres. Bref, tout ça pour dire que voilà, au cours de 20 ans, il y a eu énormément de productions, dont beaucoup de choses vraiment très très diverses. Cette année, je vais faire mes dernières photos, puisque maintenant, vous le savez, les collectivités locales ont décidé de ne plus continuer à financer et à participer au financement de l'école. Donc, j'ai vu l'ouverture dans ce nouveau bâtiment et je vois la fermeture. Voilà un cycle qui se termine.
Bonjour Alice Vergara. Tu as été directrice de l'ESAD de Valenciennes de 2014 à 2019. Et on aurait aimé recueillir ton témoignage et voilà certains thèmes qui te sont chers. Quelle a été ta rencontre avec ce territoire ?
Alors j'arrive en avril, me semble-t-il, ou mai 2014, pour passer l'audition traditionnelle, c'est-à-dire que mon dossier a été retenu et je dois présenter un projet devant un auditoire qui, là, me semble bien nombreux. C'est-à-dire autour de la table, il y a, 12, 14, 16 représentants des différentes collectivités, des enseignants, je n'ai pas souvenir qu'il y avait des étudiants. Et en fait, en bonne grenobloise, je prends un tram au sortir de la gare. Et il me semblait qu'il allait me laisser près de l'école. Je descends à la station et je me rends compte que je suis assez loin, mais je ne sais pas me diriger. Je demande aux gens, évidemment, ils ne connaissent absolument pas ni une école d'art, ni une école des beaux-arts, ni une école où il y aurait pas mal d'étudiants qui feraient des choses bizarres. Je traverse un quartier très populaire. C'est la première fois que je suis confrontée au quartier populaire du Nord, constitué de corons, avec une pauvreté évidente. Et pourtant, je viens et je vis dans un quartier populaire à Grenoble. Je cherche ma route, je passe sous un pont de chemin de fer, je prends un virage dont j'ai peur qu'il m'amène sur un terrain vague. Je débouche sur un parking où il n'y a pas vraiment de voiture. Par contre, il y a un tas d'immondices qui montent facilement à 3 mètres de haut. Je suis arrivée à l'école de Valenciennes. Je reconnais le bâtiment magistral, magnifique, que j'ai vu en photo. Je rentre dans cette école, j'attends dans le hall. Je regarde d'une façon comme ça, un peu circulaire, et je ne vois que des affiches d'interdiction qui s'adressent aux étudiants. Il est interdit d'eux, on ne peut pas. Et je me dis, mais ici, les gamins, ils doivent être super durs, en fait. Waouh ! Et je fais le lien avec le quartier populaire, avec les immondices et tout ça. Bon, on m'appelle, je passe mon audition d'une façon tout à fait normal. Bon, je rentre à Poitiers où je suis en poste. Lors de mon trajet en train, le président m'appelle. Madame Vergara, si je vous dis que vous êtes prise, est-ce que vous viendrez ? Bah oui, bien sûr. Mais vous vivrez à Valenciennes ? Ah oui, bien sûr. Pas de souci, mon point de rattachement c'est Grenoble. Donc bien sûr, je vivrai à Valenciennes. Ce que ne me dit pas cette personne, c'est qu'après mon audition, il y a eu un conseil d'administration. Les élections ont eu lieu en avril, la mairie a changé, les élus ont changé, et la personne qui vient de m'auditionner et qui me dit que je suis prise à Valenciennes donne sa démission dans la demi-heure qui suit, et j'ai donc affaire à une élue de la culture qui va être la présidente avec laquelle je vais travailler et qui ne s'est même pas présentée comme telle. Cette petite introduction va me dire dans quel territoire politique je suis. Alors, ce qui m'a semblé évident, c'est de donner un rôle aux étudiants dans le fonctionnement de l'école, c'est-à-dire d'imposer les élections, d'imposer le fait qu'il soit représenté dans les instances de l'école, notamment au conseil d'administration. Et je préparais les conseils d'administration avec les étudiants dans une séance spéciale. C'est-à-dire que, voilà, la question du politique, elle est là. On a forcément une relation avec le politique qu'on appelle les collectivités locales, la DRAC et compagnie, mais le politique, il se fait au jour le jour dans une école. Et donc, c'est comment on amène l'équipe à porter une voix, à s'exprimer et à infléchir le courant de l'école. Je suis certes la directrice, c'est à moi d'ordonner les moyens humains et budgétaires pour que ça fonctionne. Il était aussi de ma tâche de d'orienter les programmes d'une façon qui puisse être compréhensible, visible à l'extérieur, mais on fait jamais les choses tout seul quand on est directeur d'un établissement. Donc ça, d'une part, ça a été ça. D'autre part, ça a été effectivement de valider les intentions, notamment dans le design, les intentions de travail à l'égard du territoire. Nous n'avons pas commencé de zéro. Il y avait déjà une orientation qui s'était dessinée dans le concept du design social. Mais pour moi, la question du social est une question très sérieuse et donc j'avais envie d'interroger théoriquement cette question du design social et nous nous y sommes consacrés sur les 5 ans de mon mandat, évidemment prioritairement avec les gens qui s'occupaient de la recherche. Mais c'est aussi au quotidien de créer des liens avec la proximité, c'est-à-dire ce fameux quartier très populaire dont je parlais, eh bien, ça a été le lieu d'un premier projet, puisque il me semble qu'on ne peut pas s'occuper de territoire sans prendre soin des lieux et des personnes.
Quelle est la place de la recherche en école d'art ?
Alors pour moi, c'est une place assez fondamentale. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle recherche. La plupart du temps, les artistes comprennent mal cette question de la recherche au sens où ils ont l'impression qu'ils passent leur temps à faire de la recherche à l'égard de leur propre œuvre. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais la question est de pouvoir aller vers des terrains de recherche qui sont multidisciplinaires, transdisciplinaires et qui sont nourris en fait par ce qu'on appelle la théorie critique qui émane de différents champs disciplinaires. Là, en l'occurrence, à Valenciennes, la recherche, celle à laquelle je me suis davantage dédiée, était la recherche de la section design, dans laquelle il y avait une dynamique que je n'ai pas pu ou su mettre en place dans la section art, par exemple. La recherche en école d'art, c'est effectivement la relation au master, c'est-à-dire on doit accompagner les étudiants dans cette recherche absolument formidable de la théorisation de ce que l'on est en train de faire, la lecture hors champ de ce qu'on est en train d'essayer de concevoir. Pour moi, c'est absolument fondamental. Et puis, la pratique de la recherche, elle est évidemment, elle s'appuie la plupart du temps sur des textes, mais moi, je viens du champ de l'art. Donc, évidemment, quand je parle de recherche, je suis déjà dans une variété, une très grande variété, en fait, des sources. Et il me semble vraiment intéressant d'ouvrir les designers sur cette énorme variété de sources et de contribuer soi-même à apporter en fait, à contribuer en fait à la recherche par l'effort d'écriture ou l'effort en fait de consignation de sa propre recherche. À Valenciennes, en 5 ans, on a fait au moins 3 journées d'études, 3 livres. conséquents qui sont importants de mon point de vue. Et puis une université d'automne qui devait être une université de printemps, puis d'été, puis d'automne, parce que quand on n'a pas de moyens, eh bien on essaye de se les constituer. Et là, ça a été vraiment l'acmé. Ça a été 3 journées et 3 nuits de recherche permanente avec le recours à des ressources tout à fait locales, mais aussi des invités, des écoles qui nous ont rejoints venant de, je sais pas, Marseille, Toulon, Nancy, et ça a été vraiment un énorme brassage qui a compté pour tous, je crois. Puisque en plus, nous avions la fierté, nous qui ne sommes pas du Nord, la plupart du temps, nous avions la fierté de présenter ce territoire régional aux autres participants. Et ça a été dans la joie et vraiment un apprentissage majeur pour les uns et les autres. Voilà ce que c'est que la recherche en école d'art.
T'as changé comme ça. Donc Mathilde, toi tu... C'est un cas un peu particulier parce que tu es arrivée dans cette école à un moment où tu savais déjà qu'elle allait fermer.
Oui, c'était il y a un an. Quand j'ai postulé, je savais déjà que ça allait fermer. Donc j'ai une place un peu particulière. En fait, je connaissais pas trop le contexte. Quand je suis arrivée, il y avait la réunion pédagogique et c'était très tendu. Et ça m'a un peu... pas choquée, mais je m'attendais pas à ce climat. Donc oui, je suis restée un peu distante au début pour essayer de bien comprendre quelles étaient les relations entre les personnes. Voilà, parce que je me sentais pas trop légitime non plus, parce qu'il y avait eu toute la lutte, tout ça.
Tu es arrivée après, ouais.
Oui, je suis arrivée après la bataille, quoi.
Et j'imagine que tu t'es posé la question, comme nous, de ce qu'allait devenir cette bibliothèque une fois l'école fermée.
Oui, tout de suite.
Ouais.
Oui.
Donc on a émis des hypothèses. Je crois que tu as fait des propositions, d'ailleurs, aussi.
Oui. Il y avait eu les écoles d'art de la région. Il y avait la médiathèque. Mais ça, tout de suite, je savais que ça passerait pas la médiathèque municipale. Mm-hmm. Vu que c'est pas du tout adapté à leur public. Voilà, d'accord. C'est trop spécialisé.
Et tu peux nous dire un mot sur un projet qui a été proposé pour cette bibliothèque par une enseignante de Rouen?
Oui.
Élise, je ne me trompe pas.
Oui.
Comment ça s'appelle déjà? Ils sont venus et...
Oui, c'est la bibliothèque perpétuelle. Ils sont venus, ils ont proposé de mettre des papiers avec des choses écrites dessus dans les livres de la bibliothèque. Pour qu'une fois qu'ils soient redistribués, si jamais ils étaient redistribués, voilà, que d'autres personnes puissent les trouver, que ça laisse une trace. Voilà, il y avait cette idée de trace. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Alma, je suis depuis maintenant 12 ans à l'École des Beaux-Arts de Valenciennes. Je suis en charge de l'atelier volume. Et donc, c'est un atelier pluridisciplinaire. C'est un atelier que j'ai toujours essayé de rendre accueillant. Et donc, au sein de cet atelier, il y a eu des très belles rencontres. Je garde plusieurs étudiants en mémoire. Anaïs Barra, par exemple, Antoine Dojneac, Thibaut Matorel et surtout Ferdinand Macouvia. Donc, Ferdinand, c'est un étudiant togolais qui nous est venu directement de son pays. Enfin, il avait fait l'école des Beaux-Arts là-bas, au Togo. Non, en Côte d'Ivoire, pardon. Et donc, ça a été un vrai moteur, cet étudiant, pour l'atelier volume, parce que, au bout de 8 mois, il est allé chercher des subventions, donc 2 subventions couplées, une du CRUZ et puis un autre organisme dont je ne me souviens plus. 2 500 euros de subvention, et il a mis tout l'intégralité de cette subvention dans la production d'une œuvre en bois et métal, donc qui a été réalisée dans cet atelier. Cette œuvre, elle faisait quand même 4,50 m de hauteur par 4,50 m d'envergure. Donc il a fallu la concevoir dans cet atelier pour qu'elle sorte, parce que si on l'avait montée dans cet atelier, elle serait jamais sortie de l'atelier. Donc elle était démontable. Et il était tellement moteur que je me souviens avoir soudé sur mes postes déjeuner pendant plus d'une semaine. Donc voilà. Parce que bah, de toute façon, il avait mis tout l'argent de la prod dans les matériaux, quoi. Et donc il a réussi à exposer cette œuvre dans l'hôtel de ville de Valenciennes. Et ensuite, cette œuvre a été exposée. Donc c'est au donjon de Vez, c'est donc les commissaires Briès, Poulain, Le Fur et Arcurial, je crois, qui possèdent ça. Et donc ça a été exposé à l'époque à côté d'une immense sculpture de Seurat, je crois. Non, je confonds. Les grandes sculptures en acier corten.
Richard Serra,
c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était un très très beau parcours et une très belle rencontre. Et donc on est resté amis. Et bien après, je suis allé à son mariage au Togo. Voilà pour la petite anecdote. Et bon, j'en aurais plein à raconter, mais je vais être trop long.
Voilà. Et il t'a écrit une lettre hein?
Oui, c'est ça. Bah, en fait, j'ai eu cette chance, ce qui était assez gratifiant, c'est-à-dire que, en fait, il y avait des étudiants qui, effectivement, en fin de parcours, m'écrivaient des très beaux mots. Hein. Je pense aussi à Margot Donte, et donc Ferdinand fait partie aussi, qui me disait en fait toute la reconnaissance qu'il y avait pour moi en fait. Et donc c'est vrai que c'est très gratifiant quoi. Ça fait partie des côtés les plus intéressants du travail aussi. Voilà.